vous êtes indiqué 1000 logements sur un parc de 20 000. À partir de quand vous avez réussi cette transition? Parce que finalement, ça, il y a peut-être des années.
En fait, Bernard Blanc est arrivé en 2008 à Aquitanis. Il a vraiment enclenché un mouvement, un changement radical dans l'entreprise. Et du coup, il a beaucoup réfléchi sur la RSE. Il a écrit un premier bouquin sur la RSE. Il a apporté cette nouveauté. Et je dirais que le déploiement là, de tous les projets singuliers, cette approche par les lieux, comme on l'appelle nous en interne, elle est développée depuis 4 ans, à peu près. Puisqu'elle a démarré comme moi, même pas, ça fait 3 ans, parce que moi je suis arrivée en 2014, et c'était la résidence intergénérationnelle, Auréa, c'était un des premiers lieux, la réhabilitation du Grand Parc, ça venait de démarrer. Donc ça a vraiment enclenché cette approche-là depuis 4 ans. Mais avant, il y a quand même eu...
Une maturation interne.
Ah ouais, une maturation interne très longue. On a été évalué dans la norme ISO 26000 deux fois. On a quand même bien travaillé en interne sur réagencer les processus, changer la chaîne de valeur de l'entreprise pour arriver aujourd'hui à des modalités d'action au sein de l'entreprise qui sont complètement révolutionnées et changées, puisque par exemple, normalement, dans le cours, Bernard Blanc parle de chronotope, chaque professionnel du métier a son propre chronotope, sa propre temporalité, sa culture métier, et en général, on avait dans la chaîne de production une adjonction de chronotope, et aujourd'hui, et notamment en général les gestionnaires de location, arrivée en fin de chaîne, alors que c'est elle qui était en prise avec les habitants, alors que maintenant on fait rentrer les gestionnaires dès le début, pas dans le choix de la maîtrise d'œuvre, parce que c'est très chiant, l'énergie publique et tout ça, mais en tout cas, très rapidement, on fait intervenir les gestionnaires dans le projet pour qu'elles construisent avec les spécialistes du montage d'opérations le projet. Donc maintenant, par exemple, on est toujours, sur chaque projet, il y a toujours un binôme. Gestion aménagement ou gestion production neuve ou gestion réhabilitation.
Cette articulation-là est très difficile pour la majorité de bailleurs.
Oui.
Ils considèrent que ce sont deux publics différents et
des temporalités différentes. Bah, nous, là, on est vraiment à chaque fois, derrière chaque lieu singulier, il y a un binôme d'un gestionnaire de location et d'un technicien, soit de l'aménagement, soit de la production neuve, soit de la réhab. Mais on est vraiment sur. Oui.
Fait aussi partie de votre groupe.
Oui.
Alors, je connais un peu l'habitat participatif. Je pose cette question un peu pointue. Merci.
Moi, j'avais une autre question à partir de justement de cette expérience de lieux singuliers, comme tu les as appelés. Est-ce que quels effets ça a sur la production plus classique que vous avez en dehors? Ou ouais. Sur la gestion plus classique d'autres lieux. Et en dehors de chez vous, est-ce qu'il y a des effets sur les autres bailleurs locaux ou nationaux? En gros, comment est-ce que ces expérimentations qui deviennent quelque chose d'un petit peu commun chez vous, en tout cas, se diffusent chez vous et au-delà?
Ouais. Alors, au tout début, quand on a commencé à bosser sur ces projets un peu singuliers, déjà, il y a une règle qui a été posée par le directeur général qui dit un projet... même s'il est singulier, doit rester dans la même temporalité qu'un projet classique. C'était la règle qu'on s'était donnée. C'est simplement l'agencement du processus qui change. Du coup, au début, il avait dit, comme on remet un peu en jeu nos pratiques sur les lieux singuliers, vous inquiétez pas, on fait 80% de notre production classique et 20% originale. Aujourd'hui, on est sur l'inverse, en fait, quasiment. Après, le problème, on est aussi... on tend à être vers cet inverse-là, et on tend vraiment, en tout cas, la notion d'habitat essentiel, à ce qu'elle soit vraiment présente dans l'ensemble de nos projets, ou en tout cas, où on est en maîtrise d'ouvrage directe. La contrainte qu'on a, c'est que, comme on est dans un territoire très tendu, on est obligé d'acheter en VEFA, donc en vente en futur état d'achèvement, qui est en général produit par des promoteurs sur lesquels on n'a pas la main, entre guillemets. D'où l'importance d'avoir un réseau de valeurs tissé localement, puisque du coup on arrive à identifier des promoteurs qui vont peut-être pas jusqu'au bout avec nous dans les logements libres, non cloisonnés et tout, mais néanmoins qui adhèrent à le projet d'entreprise et tendent vers. Donc on arrive à Donc la part en VFA, on a moins de contrôle dessus. La part en maîtrise d'ouvrage, clairement, on essaye d'aller à chaque fois vers de plus en plus de production dite singulière. Et puis on va tendre encore plus à ça avec ce qui se passe en ce moment dans le mouvement HLM, puisque notre capacité de production va être considérablement réduite. Et donc du coup, nous, on se dit qu'on a plutôt intérêt à faire quasiment que du singulier pour garder cette différenciation. Et c'est au-delà simplement d'une stratégie d'entreprise pour survivre, mais ça fait partie du truc. C'est vraiment de se dire on contribue à la fabrique de la ville, quoi. Et donc il faut vraiment qu'on continue à avancer dans cette direction-là et à montrer la voie. Concernant les autres bailleurs, en fait, je pense que, en tout cas sur la métropole bordelaise, l'approche singulière qu'on a n'est pas tout à fait comprise. On est un peu des ovnis. Et voire parfois, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à jalouser, mais en tout cas, ils ont mis, par exemple sur le GHI, typiquement, c'est une réhabilitation qui a coûté très très cher. On est sur 60 000 euros par logement, donc c'est très cher par rapport à ce qu'on met normalement en réhabilitation. Néanmoins, nous derrière, c'est vraiment une conviction que dans cet ensemble urbain, il y a une nouvelle manière d'habiter qui doit être régénérée, et ça ne pouvait pas simplement se faire par une rénovation thermique du bâti. Et donc il y en a quelques-uns qui peuvent dire il fausse les règles, puisqu'il met 60 000 euros dans une rénovation, Aquitanis fausse les règles. Bon, néanmoins, on arrive à trouver des confrères avec lesquels on est vraiment dans une dynamique de compétition et de collaboration. Je pense notamment avec une ESH qui s'appelle Mesolia, avec lesquels on a créé un centre de relations clients, mais avec lesquels on est en train de chercher aussi peut-être d'autres activités à mutualiser, puisqu'on a à peu près, en tout cas, la même appréhension du territoire que... Et après, il y a énormément de bailleurs de l'extérieur qui viennent voir nos projets. Je ne sais pas à quel point ça essaime, mais en tout cas, on a souvent des visites de nos projets au sein du...
Si vous connaissez bien le logement, enfin, qu'en est-il du désir des moyens, enfin, des Français d'avoir une maison individuelle? Est-ce que là, vous essayez d'un peu de rendre désirable du logement collectif? Mais est-ce qu'actuellement, notamment, vous avez parlé du besoin d'intimité qui est quand même un peu non négociable? Donc, je pense à l'intimité, notamment acoustique ou visuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait faire des produits collectifs où on garantit un minimum d'intimité collective, d'intimité visuelle ou sonore? C'est peut-être techniquement, on sait faire, même si les gens ont des capacités civiques limitées.
C'est vrai que moi, je connais bien le territoire bordelais. Et donc, l'idéal de la maison individuelle avec son petit jardin reste assez fort. Et c'est pour ça, notamment, qu'on essaye, par exemple, sur la ZAC des sécheries, où on a sorti la voiture de la zone d'aménagement, une des règles qu'on a passées aux promoteurs, c'est que dans les collectifs, les collectifs doivent avoir toutes les qualités de la maison individuelle. Donc avec un extérieur, on fait de plus en plus... Il n'y a quasiment aucune production qu'on fait en maîtrise d'ouvrage direct qui n'a pas d'espace extérieur pour avoir justement cette relation dedans-dehors qui est importante pour chacun. Donc on essaye de tendre vers... Néanmoins, on n'arrivera jamais à enlever l'idéal de la petite échoppe bordelaise en plein centre-ville avec le petit jardin. Alors après, ceci dit, les prix sont tellement délirants à Bordeaux aujourd'hui que je pense qu'on va en revenir un peu.
C'est la faute des Parisiens,
absolument. Ce sont les seuls à blâmer. Non, c'est pas que, parce que là, sur toutes les opérations neuves qui sont en train de pousser, là, toutes les ZAC et compagnie, on est sur 70% d'acquérants investisseurs. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc c'est pas que les Parisiens, c'est aussi des niches créées par les règles qui font que du coup on a beaucoup de produits investisseurs et c'est un peu dommage.
C'est pour la location ?
Pour la location, c'est vraiment purement de l'investissement et ils le mettent en location.
Et à Bordeaux, on contrôle les prix de location ou c'est marché complètement libre? Dans le marché privé, bien entendu.
Dans le marché privé, je ne sais pas trop. Je me demande si c'est un peu régulé. Non, ça n'a pas l'air trop régulé, mais je ne sais pas trop. Je crois qu'il y avait une tentative à un moment de réguler les prix du privé.
C'est régulé si, par exemple, loi Pinel ou des choses comme ça, c'est régulé.
Oui. Mais...
Selon les plafonds, il y a
20% de... Oui, c'est ça, il y avait une petite régulation.
Mais c'était sur le secteur, il y avait à Lille, à Paris, je pense.
Oui, non, alors ça, oui, par contre, au blocage des prix des loyers, ça, il n'y en a clairement pas à Bordeaux.
Oui.
Non. Déjà à Paris, c'est... Non, il faut limiter le montant du loyer pour obtenir un certain nombre de déductions fiscales pendant 3-4 ans. Voilà.
Mais il y a un plafond. À partir de quelques années, on peut faire un peu ce qu'on veut.
Oui.
Alors c'était plus une intervention générale, enfin, je voulais vraiment remercier les quatre intervenants parce que j'ai trouvé que les présentations étaient extrêmement riches et diversifiées, un bon équilibre entre un peu théorique, l'approche globale et puis du terrain, enfin vraiment j'ai trouvé que c'était, enfin, j'ai beaucoup apprécié la journée. Donc voilà, je voulais déjà vous remercier à tous pour vos interventions. Moi quelque chose que je retiens un petit peu des différentes interventions, c'est la question de la capacité d'action et je trouve ça intéressant de voir qu'actuellement on va vers des bâtiments et des villes qui intègrent de plus en plus des nouvelles technologies, des bâtiments... Enfin, moi, j'ai travaillé 3 ans à la Tour Elitis à Dijon où tout est automatisé. Et finalement, en tant qu'individu, on n'a plus de capacité d'action. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sentiment de contrôle. Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir contrôler mon espace? Est-ce que je maîtrise mon environnement? Et ça, souvent, on l'enlève parce qu'on veut faire à la place des occupants, parce qu'on part du principe que les habitants, les usagers, ils vont pas forcément avoir les bons gestes. Donc, du coup, on automatise tout comme ça. Sauf que ça crée des dérives et ça crée des inconforts, etc. Et donc voilà, cette capacité d'action, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, de laisser une marge de manœuvre aux personnes pour qu'elles puissent s'approprier. Je trouve ça génial, les logements où on peut mettre les cloisons comme on veut, on s'approprie son logement et du coup après on en prend soin et on est éco-responsable dedans parce que c'est notre logement. Et juste pour finir, je voulais savoir si vous avez entendu parler, parce que ça me fait penser à tout ce que vous avez présenté, justement de la question de l'assistance à maîtrise d'usage. Avec Pascal, on est dans un réseau qui s'appelle le réseau AMU, avec toutes ces... Voilà, toutes ces... Intégrer les habitants dès le début, c'est vraiment quelque chose...
En fait, quand on est sur tous ces projets qu'on qualifie, nous, de participatifs, du coup, on sort un peu du cadre de la coopérative de la loi Allure, on s'adjoint toujours les compétences d'un médiateur, d'un assistant à maîtrise d'usage, parce que c'est aussi chacun son métier. Nous, on ne peut pas être jugé parti avec les locataires et tout ça. Et puis surtout, on sait pas faire, quoi. Et donc, pour mener des médiations et des concertations fructueuses, il y a forcément besoin de professionnels pour ça. Et donc, on s'adjoint. D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans Aquitanis qui disaient, mais du coup, ça coûte plus cher. Parce que vous payez en plus la MU ou la MO. Sauf qu'en fait... D'abord, il y a une première réponse qui est de dire, de toute façon, quand on expérimente, il y a toujours un petit surcoût, parce que c'est inhérent au démarrage, quoi. Il faut faire un coup pour voir. Et typiquement, par exemple, sur l'animation des jardins partagés, on a fait beaucoup appel à des associations, et de fait, ça crée un coût qu'on portait en fonds propres directs, quoi. Petit à petit, on est en train d'évoluer en disant mais finalement, nous, on a une régie espace vert, on a complètement changé notre manière de traiter les espaces verts, on n'est plus du tout avec des produits phytosanitaires, on a une approche écologique et tout ça. Et du coup, est-ce que c'est pas le moment de mobiliser notre régie espace vert pour qu'eux-mêmes deviennent les animateurs pour rentrer dans une autre dynamique? Donc on évolue aussi comme ça, mais oui, on fait toujours appel à des... Là, on lance un projet de ferme urbaine sur 5000 m² dans un ensemble de 1500 logements aux Aubiers. On fait forcément appel à des médiateurs parce qu'il faut co-construire le projet. Moi, je ne suis pas ingénieur agronome, je ne sais pas comment on va faire. Ce qu'on sait, par contre, c'est faire appel au bon réseau pour faire émerger des projets co-construits avec les habitants.
Oui, donc je vous remercie. Madame Gela et Madame Millet d'être venue, parce que souvent c'est un peu un risque pour les professionnels de l'action de venir ici, puisqu'on s'appelle approche critique du développement durable, donc on aime bien un peu critiquer l'action. Et moi, une chose qui m'a intéressée, c'est quand vous avez dit que le logement comme un produit industriel, ça fait titre parce que il y a de nombreuses années, j'ai produit un rapport qui était sur pourquoi en France on construit en béton et en particulier en béton banché, donc le voile banché et les murs porteurs, et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Et j'avais conclu qu'il y avait des logiques. Il y avait une logique de prototype qui est plutôt l'architecte, qui est plutôt l'entreprise de construction, parce que malgré qu'elle investit dans ses banques, etc., chaque chantier est différent. Sur chaque chantier, même si vous avez tout prévu, il y a toujours des imprévus, on bricole en permanence. Et au contraire, il y a les maîtres d'ouvrage qui ils ont plutôt une logique industrielle parce qu'ils ont une vue transversale sur les opérations. Ils voient là, il y a des sinistres, etc. Ils essaient d'éviter les sinistres d'une opération sur l'autre. Il y a les cupies, il y a les cahiers des charges, etc. La poignée de porte, ah non, pas celle-là parce que celle-là elle pose problème. Nous, on veut celle-là, etc. Donc, on standardise. Et donc, ma question, c'était sur le lâcher-prise, finalement. C'est, puisque vous-même, vous, quelque part, vous portez cette logique industrielle, comment vous lâchez-prise, comment vous amenez, finalement, à changer d'optique. Alors, certes, dans ce que vous avez présenté, c'est très intéressant. C'est plus du classique, c'est comme vous avez dit, c'est original. Mais en même temps, je dirais, par rapport à cette question des techniques constructives, parce que vous avez cité Bouygues, qui bétonne. Mais en même temps, vous, quelque part, c'est très difficile de... Dans ce que vous avez présenté, je me suis peut-être trompé, mais je n'ai pas vu de construction de voie, par exemple,
C'est parce que je ne l'ai pas présenté.
Ah, vous n'avez pas présenté, d'accord. Mais j'aimerais bien que vous développez un peu sur ce lâcher-prise, et puis on avait aussi parlé du aussi. Oui. Si vous pouvez évoquer... Oui.
Peut-être juste pour compléter, parce que là, ce qu'on voit à l'écran... On voit des produits finalement. Hein. C'est-à-dire que, il me semble qu'il y a une petite contradiction entre le fait de travailler à partir des lieux, donc de travailler à partir des singularités, de dire aux acteurs si les habitants finalement n'utilisent pas tel qu'on l'avait anticipé dans tous nos projets, dans tout notre participatif ou non, hein, ça n'est pas grave. Mais en même temps, juste après, vous dites finalement, on fabrique des produits. Et là, on voit bien que ce n'est pas des lieux que vous présentez, c'est des produits avec leur spécificité, ou même, pour aller un peu plus loin, leur créneau. Mmh. Et qu'on pourrait imaginer, en tout cas vu d'avion, là, comme ça, on pourrait imaginer que ben, moi, je suis une OPHLM de Nantes ou de Montpellier, et je me dis, ben oui, j'ai un truc à faire avec les personnes âgées, etc., un transgénérationnel, est-ce que vous avez un produit clé en main à produire ? Eh bien, on va... finalement transposer ce qui a été fait à Bordeaux, on le transpose à Montpellier ou à Nantes. Et donc, je ne sais pas si c'est une partie de la réponse par rapport à l'approche industrielle, c'est-à-dire finalement transformer des lieux en produits, donc ça, on peut interroger ce glissement. Et la deuxième question, c'est est-ce que de partitionner finalement, c'est-à-dire l'habiter, c'est quelque chose qui comprend un certain nombre de dimensions. Là, on voit que dans ces projets, c'est finalement quelques dimensions à chaque fois qui sont privilégiées. Et que les dimensions qui sont privilégiées dans un produit, enfin dans un cas, sont moins privilégiées dans d'autres, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de gérer ce fameux sacrifice qu'on poursuit depuis le début de la journée? C'est-à-dire, finalement, avoir une intervention spécifique sur telle ou telle question qui pose plus de problèmes dans un lieu... au prix finalement de l'impasse sur un certain nombre d'autres choses, est-ce que c'est pas aussi une manière de gérer le sacrifice? Je pense par exemple à la question acoustique qui était présentée tout à l'heure. Quand on voit les immeubles HLM, on sait que la question acoustique, elle est essentielle finalement et qu'elle est peut-être primordiale dans ces bâtiments. Donc, est-ce que le jardin d'hiver qui est proposé, c'est peut-être finalement un moyen de gérer le sacrifice qu'on leur demande sur la question acoustique, où finalement on leur dit ben on peut pas trop progresser sur cette question-là parce que structurellement c'est une question insoluble, quoi.
Alors je sais pas trop sur la réponse du GHI, juste sur le je vais essayer de répondre à toutes les questions. Est-ce que c'est alors sur chaque projet singulier? On a une architecture stratégique qu'on n'a pas du tout inventée, qui a été produite par Alain Charles Martinet, qui est un professeur émérite de l'Université de Lyon en management, qui a beaucoup étudié notamment l'entreprise Nestlé, mais pas que, et beaucoup théorisé sur la RSE et les différentes approches de la RSE en entreprise. En fait, à chaque fois qu'on a un projet singulier, après, on va se questionner en interne en disant, est-ce que ce projet-là, c'est un coût, enfin, est-ce que c'était pour voir comme ça, est-ce que c'était propre à ce territoire-là particulier, ou est-ce que ça crée une nouvelle offre dans notre gamme de produits, pour le coup, parce qu'on a des produits aussi. Est-ce que ça crée une nouvelle offre? Est-ce qu'il y a un nouveau segment de marché? Est-ce qu'il y a un nouveau segment de clientèle? Donc on est quand même dans cette logique-là aussi d'entreprise assez classique. Et donc, là, par exemple, il y a certaines choses qui sont vraiment des projets singuliers. Je pense à Pôle Boncourt, par exemple. On ne pourra pas refaire un deuxième Pôle Boncourt ailleurs. Par contre, la résidence intergénérationnelle, elle semble répondre à un désir du territoire de faire vivre les générations ensemble. Et du coup, ça, c'est un produit, une offre qu'on développe à la demande des mairies, d'ailleurs, qui, elles, pressentent qu'elles ont besoin de ce genre de produit particulier. Mais ce n'est pas tellement le logement qui est le produit en lui-même. Je sais pas si... Enfin, c'est vraiment une... C'est plus une offre...
Des nouvelles opportunités.
Oui.
Une marque.
Qu'un un produit. Je ne sais pas si on peut comprendre.
Oui, mais vous voyez bien que le processus qui a été mis en avant par la présentation précédente, ouais, qui est essentiel, finalement, dans tous ces projets... À partir du moment où on le considère comme un produit, clé en main, pour aller plus loin, on voit bien que finalement on perd cette notion de processus
qui est essentiel. Sauf qu'il n'est pas clé en main, parce qu'à chaque fois, comme on fait intervenir les habitants, il va forcément prendre une saveur différente partout, du coup. Aujourd'hui, on a 4 résidences intergénérationnelles, il n'y en a pas une seule qui se ressemble.
D'accord.
Elles sont toutes différentes. Ce qu'on va dupliquer, entre guillemets, c'est le travail qu'on va faire avec les architectes sur la matérialité du bâtiment, pour favoriser les espaces, la rencontre et tout ça, ça on va le travailler, mais à chaque fois c'est des équipes d'architectes différentes, donc ça va se matérialiser à chaque fois différemment. Et comme on intègre la compétence des habitants dans chacun de nos produits, ils prennent forcément une teinte un peu différente selon qu'ils sont implantés dans la commune du Bouscal, qui est la plus petite commune de Bordeaux, ou qu'ils sont implantés dans le Ginko, qui est un écoquartier en devenir. Donc à chaque fois quand même, l'offre résidence solidaire prend une teinte différente selon les territoires sur lesquels elle est implantée. VIM, par exemple, c'est un produit qui prend en compte, donc qui est monté sur pilotis, qui prend en compte la crue de la Garonne. Aujourd'hui, on n'a pas forcément l'idée de le développer ailleurs que dans des endroits où il y a ce risque d'inondation qui est quand même très lié du coup au territoire. Par contre, le logement libre, le plan libre, la partition avec les locataires, ça on peut le reproduire avec les habitants. Ça fait partie c'est comme si dans l'offre en fait il y avait des petits morceaux qu'on pouvait un peu dupliquer, et puis une autre qui reste quand même très singulière parce qu'elle va être due aux habitants. Je sais pas si j'ai répondu sur le lâcher prise, je sais pas trop comment répondre, donc je vais plutôt répondre sur la partie industrielle. On a développé un procédé de construction industrielle en bois, puisqu'on est sur le territoire de la forêt des Landes de Gascogne, et qu'il y a énormément de bois qui est destiné aujourd'hui à la pâte à papier, puisque c'est 90% du bois produit dans Pointe des Landes qui est destiné à la pâte à papier, et 10% qui est destiné aux bois de construction. Et là, en fait, on a beaucoup travaillé avec un industriel qui était... un industriel du BTP assez classique et qui a changé, lui, complètement sa chaîne de valeur pour faire de la construction en bois, à ossature bois en tout cas, et qui ne travaille pas que avec nous, qui travaille avec d'autres. Là, on se rend compte que c'est très difficile de créer une filière en fait de construction en bois de pin des Landes, parce que le pin des Landes, il faudrait en fait diversifier le bois que l'on plante dans les Landes, que ce soit pas forcément que du pin, parce que le pin c'est pas un bois de construction, c'est un bois qui travaille, qui brille, enfin je vais pas rentrer trop dans les détails, mais néanmoins on est quand même sur et les opérations VIM et BEN là, qui sont des plateaux libres, sont des opérations qu'on appelle nous Sylvania, c'est le nom qu'on a donné à notre processus de production à ossature bois. Ils sont à ossature bois, ces logements là on sait. Et là on a révisé, on avait un premier projet qui s'appelait Sylvania, on a construit à peu près 200 logements à ossature bois comme ça, et on a revu un peu tout notre processus de production et toutes les attentes qu'on avait, aussi riches de la définition qu'on se donne de l'habitat essentiel et de l'habitat frugal, pour arriver à une nouvelle mouture de Sylvania qu'on a appelée Sylvaneo, Et donc, on a fait un dialogue compétitif avec les équipes pour essayer d'atteindre justement cet objectif d'habitat essentiel en restant dans une logique un peu industrielle de la production de logements. Voilà, je sais pas si ça répond pas trop à votre question sur le lâcher prise, je m'en rends bien compte.
Est-ce que vous pourriez développer un peu sur le LOCI?
Ah oui, le LOCI.
Alors,
le LOCI. Le LOCI, c'est une invention de Bernard Blanc, qui est le lieu ouvert aux controverses et à l'innovation, qui est en fait un espèce de laboratoire Aquitanis. D'ailleurs, on pourrait dire LOCI aussi, enfin, je n'ai jamais fait de latin, moi, mais c'est le lieu unique. Donc, voilà. Enfin, c'est le lieu. Et donc, du coup, ce lieu ouvert aux controverses et à l'innovation, en fait, on a construit cette espèce de lab en se disant il faut qu'on s'entoure de personnes qui ont une vraie expertise pour nous accompagner sur cette compréhension des enjeux du développement durable. Donc, il y a un LOCI qu'on appelle expert. Et là, on a vraiment une ribambelle de professionnels de l'écologie, l'environnement. On a Dominique Gauzin-Muller, on a Philippe Madec. On a Yana Revedine, on a Alain Bornarel qui est un ingénieur qui développe des éléments sur l'habitat frugal, l'habitat essentiel. Et ça, c'est des intervenants qu'on va faire intervenir auprès des équipes d'Aquitanis pour essayer de chercher à comprendre ce que veulent dire ces dimensions, essayer de faire émerger du sens dans l'action d'Aquitanis et qui viennent aussi nous éclairer. Dominique Gauzin-Muller, par exemple, a beaucoup travaillé sur la fabrication en terre crue. Et nous, il se trouve qu'on a une zone d'aménagement qui est à Biganos, là, qui est marquée là, où traditionnellement, on construisait des briques locales avec la terre locale. Et donc, le dialogue avec Dominique Gauzin-Muller nous a aussi invités à réfléchir sur cette fabrication en terre crue. Et donc, on a été voir l'industriel qui fabriquait les briques de Biganos avant. Il a redémarré sa machine à fabriquer de la brique et on va construire des maisons avec la brique de Biganos et avec du bois des Landes de Gascogne dans cette zone-là. Donc ça, c'est vraiment la manière dont ces experts viennent un peu éclairer, nourrir nos réflexions sur le développement durable, l'habitat essentiel, la nature en ville, l'architecture écologique, l'architecture vernaculaire, enfin tout ce que vous voulez. Et donc ça, on a des experts qui viennent régulièrement et on a des échanges avec eux. À chaque fois, on se base sur les projets d'Aquitanis pour essayer de les décortiquer avec l'expérience de chacun. Ensuite, on a un LOCI équipe. Donc ça, c'est en fait, par exemple, tous les ans, on réunit les 350 collaborateurs d'Aquitanis et on essaye de se raconter, encore une fois, dans cet esprit de narration, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année écoulée, qu'est-ce qui s'est passé dans nos projets. Et cette grande messe, c'est pas le directeur général qui développe le rapport d'activité d'Aquitanis à ses salariés. C'est vraiment les salariés qui animent des tables rondes pour leurs copains, donc les gestionnaires, tout le monde, et qui racontent, bah, tiens, moi, sur cette résidence, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai travaillé comme ci, j'ai travaillé comme ça. Et ça permet en fait de partager, de donner un sens commun à l'action collective que les équipes n'ont pas forcément la capacité de voir parce qu'on a le nez dans le guidon et que quand on n'a pas ce temps un peu de recul, on a du mal aussi à comprendre. Et donc ça, et après, dans ce même LOCI équipe, ce sont tous les outils de communication qu'on va développer pour partager le travail d'Aquitanis sur des supports, des journaux internes, voilà. Et puis après, il y a l'OCI partie prenante de mémoire. Et donc ça, c'est tout ce qu'on fait pour... Parce qu'on se rend compte, en fait, qu'avec notre démarche, le petit risque qu'on a, en tout cas sur la métropole bordelaise, c'est de se marginaliser par rapport aux autres. Et du coup, essayer de vraiment rester en lien avec les acteurs du territoire, les parties prenantes, qui ne font pas forcément bouger les lignes, mais avec lesquelles, néanmoins, on doit travailler en bonne intelligence. Et donc, ce sont les événements que l'on va mettre en place pour partager nos projets, donner à voir, faire comprendre en utilisant des moyens différents, conférences, ateliers, débats, supports. Là, j'en ai amené aussi pour vous un journal annuel qu'on édite qui s'appelle Urbanité, puisque Aquitanis définit l'urbanité comme le bien commun que l'on a à défendre ensemble, avec des exemples voilà, de ce qu'on peut donner à voir aux parties prenantes. Et du coup, dans ce LOCI-là, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, mais c'est en même temps le moyen pour nous de capter, d'avoir des canaux pour être sûr de toujours être en face et toujours être en mouvement, en fait. Et ça, c'est vraiment très caractéristique de notre directeur général aussi, qui, de par son rôle de sociologue, est en permanence en train de naviguer, il est sociologue pragmatiste, et donc de naviguer entre la théorie et l'action. Et nous, il nous invite vraiment toujours à ce même mouvement dans nos pratiques aussi, ce qui est assez déroutant et néanmoins assez stimulant, puisque du coup, on arrive à peu près à voir ensemble le sens commun, à partager l'ambition commune sur ces temps-là. Donc c'est ça l'aussi qui a été imaginé par Bernard.
Oui, ben on fait la boucle là, c'est-à-dire qu'on a commencé ce matin avec le changement rationnel, changement expérientiel, et là ce que vous venez de dire à l'instant, c'est bien ce lien entre les deux types de changements. Donc,
avant de faire le bilan, moi j'avais une question à Céline Millet. Pour vous aurez un autre train, c'est bon?
Oui, c'est bon.
Vous avez le temps?
J'ai le temps.
Oui, d'accord. Moi, j'avais juste une question qui était sur... donc, vous parliez du besoin, mais j'ai eu un peu le sentiment qu'on... vous avez insisté sur la confusion entre stratégie et besoin, j'ai eu l'impression que, finalement, on arrivait à s'entendre sur le besoin. Ma question, c'est quand il y a différents besoins et compétition entre différents besoins, et arriver à s'entendre sur... là-dessus, et je donnerai l'exemple de la copropriété. Alors, la copropriété, donc la rénovation des copropriétés, on a instauré un système qui est notamment l'audit énergétique. Au départ, on disait qu'avec le retour sur investissement, en mettant en valeur le retour sur investissement, les copropriétaires iraient sans problème, puis finalement, ça marche pas très bien. Donc après, là-dessus, on a rajouté un peu différents outils. On est passé à l'audit partagé, donc un partage de vue entre l'architecte, entre le syndic de copropriété, entre les énergéticiens. Puis on a rajouté là-dessus les courtiers en financement pour essayer d'optimiser les aides de financement. C'est pas suffisant, donc on insiste maintenant sur la communication, communiquer auprès des copropriétaires pour essayer de faire passer le message. Et votre méthode, ça pourrait être un outil qu'on pourrait rajouter et qui serait intéressant, je trouve. Mais ça pose un peu le problème de l'empilement d'outils pour réussir. Et un des problèmes dans la copropriété, c'est que même si vous arrivez à définir le besoin, en fait, je suis persuadé qu'il faut avoir la petite mémé, selon les âges, selon les parcours résidentiels, etc. On va avoir différents besoins et comment on va arriver finalement à ajuster tout ça.
Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai été très frappée et touchée aussi par cette intelligence collective qui imprègne totalement notre projet depuis le début jusqu'à la fin et qui est vraiment c'est un exemple fantastique pour ça. Et l'intelligence collective, elle a fait ses preuves dans des situations comme ça qui réunissent en fait des personnes très différentes et notamment effectivement ça c'est la difficulté des espaces info-énergie qui accompagnent notamment des immeubles sociaux dans les économies d'énergie où ils se retrouvent avec des gens qui ont des priorités qui ne sont absolument pas les économies d'énergie, on s'en doute. Enfin, en tout cas, qui n'ont pas ce sentiment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les méthodes d'intelligence collective ont fait leur preuve pour arriver à faire réfléchir ensemble les gens. Et très souvent, les contradictions émergent parce que les gens sont coincés dans leurs priorités, leurs petites prérogatives. Voilà, ils sont dans leur histoire. Et l'intelligence collective, quelle qu'elle soit, les méthodes, elles ont été expérimentées notamment par, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais un des espaces info-énergie en région parisienne, qui se sont formés à toutes les méthodes d'intelligence collective possibles, parce qu'ils étaient dans ces impasses, dans les immeubles sociaux, qu'ils accompagnaient, et ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui se fabrique quand les personnes ont la possibilité d'exprimer leurs frustrations et leurs soi-disant besoins, qui ne sont pas forcément réels, mais en tout cas d'exprimer et de les résoudre avec les autres. Dans cette relation, dans cette écoute. Donc ça a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, on s'interroge justement, et Chantal vient de rejoindre le service que j'ai accompagné sur ces questions, donc c'est intéressant qu'on approfondisse ça. Comment est-ce que l'intelligence collective peut devenir finalement l'outil en fait pour favoriser la résolution de ces problématiques. Et de fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas encore laissé les personnes qui avaient le problème le résoudre. Et donc ça, c'est le principe de l'intelligence collective. C'est-à-dire vraiment à la fois ce mystère du changement, dans le sens où je ne sais pas le résultat, et en même temps, cette totale capacité qu'on a chacun à partir du moment où on nous sollicite et on nous aide à le faire d'une façon intelligente. Alors là, c'est ce que j'appelle l'espace d'écoute spécifique, qui fait que les personnes vont sortir de leur petit truc, leur petite histoire personnelle, pour construire une histoire collective dans laquelle ils s'inscrivent personnellement.
Et puis les besoins sont souvent conciliables. C'est les stratégies qui ne le sont pas.
Absolument. Les besoins ne sont jamais en contradiction. Moi, souvent, parfois, dans les diagnostics qu'on fait, il y a 12 besoins et on se rend compte qu'en fait.
Et puis quand on est écouté, en fait, on entend l'autre aussi. Alors que lorsqu'on n'est pas écouté, on est fermé à toute entrée d'information. On va être plutôt en résistance.
C'est ça.